bonjour, benvinguta totom, soyez tous les bienvenus à votre rendez-vous de l'Alliance. Les rendez-vous de l'Alliance, une émission en français, la seule du paysage audiovisuel andorran qui traite d'une façon assez large de l'influence de la culture française en principauté d'Andorre. Le rendez-vous de l'Alliance andorrano-française est une émission réalisée en collaboration avec Radio-Télévision d'Andorre. Aujourd'hui, en fin d'émission, nous aurons le plaisir de découvrir l'explication d'une expression de la langue française grâce à Nathalie Ramstorff. Mais commençons par accueillir notre invité du jour. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est l'auteur de théâtre le plus illustre de notre littérature. Pour certains, son œuvre est avant tout l'achèvement le plus parfait du genre comique. Pour d'autres, ses grandes comédies, comme Don Juan ou Le Misanthrope, constituent une analyse subtile de la psychologie individuelle et collective. Reste la vie de Molière, force est de constater que nous en savons finalement assez peu et c'est tout le propos de la compagnie théâtrale Alcandre qui vous propose Moliératus ce jeudi 27 avril. Nous recevons le metteur en scène et auteur de la pièce, Serge Bouritz. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Alors, monsieur Serge Bouritz, cette proposition théâtrale en Andorre, je pense que c'est une première.
C'est une première. En tout cas, nous avons joué un Racine l'année dernière et nous revenons avec un Molière cette année.
Alors, Racine par Racine, est-ce que c'est vous avez pris, disons, la même recette un spectacle imprégné de la vie du dramaturge? J'ai tout fait de morceaux de cette pièce.
Pas vraiment, puisque en fait, pour Racine, on était vraiment parti d'un point de vue un peu paradoxal, c'est-à-dire d'écrire une comédie à partir des tragédies de Racine et de certains éléments de sa vie.
Oui.
Pour Molière, je suis parti de la mort de Molière, c'est-à-dire des derniers instants de sa vie, en imaginant, évidemment toutes les zones d'ombre qui entourent cette mort, les derniers instants de sa vie d'homme, de metteur en scène, de directeur de troupe, dans sa loge du théâtre du Palais Royal à Paris, le 17 février 1673.
Voilà, donc on est dans l'action, on est à la quatrième représentation du malade imaginaire. Molière se sait très malade et pourtant il met un point d'honneur à être là.
C'est ça, malgré l'avis de ses comédiens et de sa femme qui lui conseille d'annuler la représentation puisqu'il est vraiment très malade. Et évidemment, en tant que directeur de troupe, il ne peut pas se permettre d'annuler, il veut jouer jusqu'au bout. Mais il se sait mourant et c'est tout le propos du spectacle, c'est-à-dire de voir comment il va gérer les derniers instants de sa vie et comment la troupe va réagir face à cette situation problématique.
Alors, au-delà de la maladie, de la fatigue, il doit faire face aux problèmes financiers, aux rivalités de ses acteurs. Donc, c'est vraiment une tourmente complète.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il a des préoccupations de chef de troupe, c'est-à-dire qu'il doit jouer un spectacle, il a des problèmes avec des musiciens, etc., entre ses comédiens. Il est aussi un auteur, donc évidemment, il est soucieux de sa réputation d'auteur parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Et enfin, il est aussi un homme et il a une jeune femme qui lui est infidèle, donc il doit gérer aussi ses problèmes de couple, ce qui fait qu'il a énormément de problèmes à gérer pendant les derniers instants de sa vie.
Donc c'est vraiment un moment très précis dans la vie d'une personne. La mort fait partie de la vie, inéluctablement, mais c'est vraiment ce moment très précis que vous avez choisi de mettre en scène et c'est vraiment vu sous un angle bien particulier où on a l'impression d'être presque dans les coulisses de préparatifs de sa mort.
Que à la fois, on a un souci d'essayer de donner une image assez précise de ce qu'il a pu vivre, lui, en tant qu'homme du XVIIe siècle, avec toutes ces questions propres à l'époque aussi, puisque évidemment, dans ses textes, il y a des références à l'actualité de son époque, mais en même temps, c'est un propos plus général sur le théâtre et sur la question de ce que c'est qu'une troupe de théâtre, des rapports entre les individus, de leur querelle éventuelle, de ce que le théâtre apporte aux hommes, de tous les soucis que peuvent rencontrer les gens de théâtre. Donc c'est à la fois un propos circonstanciel et en même temps universel sur le théâtre.
Alors, bon, quant aux circonstances précises de sa mort, j'ai pu lire ci et là que quelques moliéristes continuent de s'interroger sur cette mort jugée mystérieuse certaines fois. Mais
Oui.
bon, il n'est pas mort véritablement sur scène, il est mort chez lui.
C'est ça, oui.
Mais bon, là aussi, ça a été un peu théâtral car. Car se sachant mourir, il a demandé à ce qu'on aille chercher le curé à Saint-Eustache, mais qui n'ont pas voulu se
Oui,
déplacer.
c'est ça.
Donc c'était aussi une mort aussi complètement théâtrale, avec des
C'est
obsèques
vrai.
qui ont suscité de grandes difficultés, j'imagine.
Oui, bien sûr, oui, puisque en fait le statut de comédien à l'époque nécessitait qu'ils abjurent leur profession s'ils voulaient être enterrés en terre chrétienne. Donc il demande à sa femme Armande d'aller voir le roi pour lui demander une sorte de dérogation, puisqu'il sent qu'il risque de mourir avant d'avoir pu rencontrer les prêtres, et c'est un petit peu ce qui va se passer par la suite, mais je ne vais pas trop dévoiler non plus du spectacle.
On ne peut pas tout dévoiler alors.
Voilà, on ne peut pas tout dévoiler.
Bon, même si on sait qu'il a quand même pu être enterré, mais pas forcément de manière digne, ni sans aucune pompe,
Voilà, c'est
ni
ça, un petit peu en catimini, oui.
hors des heures du jour.
C'est ça, voilà.
Alors, pour en revenir à la vie de cette troupe qui a connu de grands revers, on sait que Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, mais on dit aussi que Molière est né à Pézenas. Alors nous, ça nous intéresse parce qu'ici en Andorre, on n'est pas loin finalement de Pézenas.
Oui.
Et c'est probablement là-bas qu'effectivement, lorsqu'il il a rejoint avec quelques comédiens rescapés du naufrage de l'illustre théâtre,
C'est ça, oui.
la troupe a certainement été consolidée à ce moment-là.
Oui, c'est sûr que la tournée qu'ils ont faite pendant plusieurs mois dans le sud de la France, c'est un peu ça qui a lancé sa carrière de comédien. C'est avec Madeleine Béjart qu'il est parti sur les routes et qu'il est revenu ensuite à Paris et qu'il a connu le succès grâce aux Précieuses Ridicules, et que sa carrière a véritablement commencé après à la cour et auprès des princes et des puissants d'époque.
Et d'ailleurs, c'est là qu'on commémore encore sa mort et que la Comédie française vient
Oui,
lui rendre
c'est
hommage.
vrai. Absolument, oui, c'est vrai.
Donc c'est aussi important de ce travail de mémoire qui est cultivé à Pézenas par les. Alors vous savez comment on appelle les habitants de Pézenas?
Non.
Les Picénois.
Ah, d'accord.
Alors les Picénois demeurent vivaces à l'esprit de Molière.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, bon, donc il faut s'imaginer à cette époque une troupe sur les routes. Donc, vous l'avez dit, c'est des mois où on vit ensemble, on travaille ensemble. Donc, il doit y avoir tout ce que vivent les communautés humaines. On doit
Bien
partager
sûr.
de beaux moments, des moments plus douloureux, plus tristes. Il doit y avoir
Oui.
des relations à tout niveau. C'est vraiment un groupe qui se forge, qui apprend à se connaître et à vraiment à travailler ensemble. Qui en plus, bon, il faut en recontextualisant, Molière avait aussi les faveurs du roi Louis XIV, au moins au début, car après l'amitié du
Oui.
roi qui manquait de constance, et
C'est
bon,
ça.
à la fin, il a fini pas forcément en disgrâce,
Oui.
mais disons que le roi ne lui accordait plus autant l'audience qu'il pouvait le faire
Oui, il
auparavant.
en est question d'ailleurs dans le spectacle
Ah, alors, il
de ce
faut pas
problème.
qu'on dévoile tous les trucs du spectacle alors.
Mais effectivement, la question, c'est aussi un des centres d'intérêt, je pense, de notre spectacle, c'est la question de la troupe. Et
Ouais.
c'est vrai qu'aujourd'hui, le théâtre ne fonctionne plus beaucoup, à part évidemment la prestigieuse Comédie française que vous avez reçue, je crois, d'ailleurs,
Oui.
il y a quelque temps. Voilà, et puis le théâtre du Soleil à Karen Mouchkine, il y a très peu aujourd'hui de troupes de théâtre, c'est-à-dire de gens qui vivent des expériences sur le long terme comme ça, qui était le cas de la troupe de Molière. Et évidemment, c'est une communauté humaine avec, comme vous l'avez dit, tous les problèmes inhérents à un groupe humain, et ce qui est assez fascinant aussi. Mais ça crée aussi une espèce de solidarité très forte et très belle qu'on essaie de montrer dans notre spectacle.
Alors, on vous a perdu? Non, on vous a
Oui,
retrouvé.
non, oui.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, ça me fait penser à peut-être un parallèle au niveau musical. Si on regarde bien actuellement, on a plus trop de groupes, par exemple en France. C'est plutôt des gens qui chantent individuels, solo. Et c'est peut-être un peu dans cette ligne-là où on a du mal à consolider un groupe, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de faire venir des... Un groupe à la célébrité plutôt qu'une seule personne qui aura les faveurs des médias, des télévisions, etc. Ça sera beaucoup plus facile à gérer, je pense. Donc c'est peut-être un peu dans cette optique-là où à l'heure actuelle, on a du mal à voir des groupes qui émergent. C'est peut-être la société qui est de plus en plus individualiste, quelque part.
Sans doute, oui. Et c'est aussi, enfin nous, on s'en rend compte que c'est aussi une des choses qui nous intéressent dans le théâtre, c'est-à-dire cette capacité aussi qu'a un groupe à surmonter les égoïsmes, les intérêts individuels pour aller vers un intérêt collectif. Et ça, c'est une des choses les plus formidables au théâtre aujourd'hui encore. C'est un des derniers lieux de convivialité aussi de la société, puisqu'il y a un public, il y a une troupe sur scène. Et quand la troupe existe en tant que troupe, je pense que le public le sent. Enfin, en tout cas, j'espère.
Mais c'est vraiment un moment où j'imagine on est beaucoup plus exposé. Il y a une prise de risque plus importante que lorsqu'on fait un film où on peut couper, on peut reprendre une scène. Là vous êtes exposé directement à votre public. Vous avez les réactions aussi en direct qui, j'imagine, vous aident à prendre le pouls de ce public et savoir si vous, en tant que metteur en scène, vous avez bien travaillé votre mise en scène, justement.
Oui.
Et au sujet de Molière, justement, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que vous l'avez dit, le 17 février 1673, donc il meurt.
Oui.
Et le 24 février, donc une semaine après avoir suspendu les représentations du 19 et 21, la troupe reprend le Misanthrope avec Baron dans le rôle d'Alceste.
Oui.
Donc c'est vraiment cet esprit aussi de... le show doit continuer, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, on l'a encore sans trop en dire. C'est un peu le propos aussi de la pièce, puisque pour Molière, l'important est que ça continue et que même si lui n'est plus là, que ça continue. Et pour les autres, c'est difficile évidemment à envisager.
Donc ensuite, la troupe s'est recomposée avec certains des compagnons de Molière.
Oui. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu la fondation de la Comédie française un peu plus tard.
Enfin, il y avait déjà quand même un esprit de lutte féroce entre les diverses troupes où on essayait d'aller racoler ou de récupérer des comédiens de ci,
de
là.
Oui, et puis il y avait à la fois des querelles entre les dramaturges eux-mêmes qui se volaient à l'envi leurs comédiens, et effectivement, parce que les comédiens, c'est un peu comme aujourd'hui, les comédiens avaient aussi des intérêts individuels et parfois privilégiaient leurs intérêts par rapport à celui de la troupe. Et là aussi, c'est une des questions qui est en jeu dans notre spectacle. Est-ce que la troupe peut résister aux tentations de d'auto-dissolution quand le chef de troupe disparaît? Donc c'est vraiment une question intéressante à poser.
Mais là-dessus, je pense qu'on est bien certain que Molière était un vrai leader, parce que pour que les gens arrivent à le suivre dans des conditions, parce qu'il faut s'imaginer, il y a près de 400 ans, traverser la France dans les conditions que ça devait être, il fallait vraiment être convaincu qu'on suivait la bonne personne.
Oui, je pense que c'était un homme très charismatique. Déjà, c'était un très bon comédien comique. Enfin, ça, les quelques témoignages qu'on a sur son jeu le disent. Mais c'est vrai que c'était un homme qui avait le sens. Bon, il était aussi très aidé par Madeleine Béjart, qui est une femme d'affaires pour l'époque, on dirait ça aujourd'hui, et qui l'a initié à tout ça, à la vie du théâtre, parce qu'il était tout jeune quand il a commencé. Elle était un peu plus âgée, elle avait déjà de l'expérience. Et d'ailleurs, c'était une histoire assez belle entre eux, dont il est question aussi dans notre pièce.
Comment ça se passait justement au moment de l'écriture? Est-ce qu'il écrivait en ayant déjà l'acteur attribué ou ensuite ça se faisait de quelle manière?
En fait, c'est assez difficile de le savoir. Ce qu'on sait, c'est que souvent les acteurs de l'époque avaient des emplois, comme on disait jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait le comique de la troupe qui jouait le rôle de comique. D'ailleurs, Molière jouait souvent des rôles de comique.
Comique,
dont Don Juan, il jouait Sganarelle, il jouait... Monsieur Jourdain, il jouait Argan, le malade imaginaire. Et ensuite, il y avait les jeunes premières, il y avait les suivantes. Donc, les rôles étaient un petit peu de donnée d'avance en fonction de la personnalité du comédien, souvent, et de l'âge, évidemment, aussi.
Et vis-à-vis de Corneille, donc vous étiez quasiment contemporain.
Oui,
quelle a été l'influence? Parce qu'on a aussi entendu dire que Corneille aurait pu écrire certaines pièces.
Oui, il y a pas mal de thèses qui ont été publiées sur la question de finalement Molière n'aurait pas écrit ses pièces. En fait, ces thèses-là viennent du fait qu'on n'a pas vraiment de manuscrit de Molière et toute sa correspondance a disparu de manière assez mystérieuse. Mais en fait, si on analyse vraiment les pièces dans leur contenu, on se rend compte quand même qu'il y a une spécificité des textes de Molière qui, à part deux ou trois pièces où on peut imaginer qu'ils ont peut-être collaboré, ce qui est assez vraisemblable puisqu'ils se connaissaient quand même. Pour le reste, il y a quand même des thèmes qui sont propres à Molière, qui n'existent pas chez Corneille et inversement. Donc c'est assez peu plausible l'idée de croire que Corneille aurait écrit les pièces de Molière. En tout cas, ils se connaissaient, ils étaient rivaux, comme avec Racine d'ailleurs, et c'était vraiment les trois larrons.
en tout cas, Molière, et ça, d'après tous les témoignages qu'on a pu recueillir, c'était quand même quelqu'un avec un caractère avenant et agréable, qui était peut-être pas le cas chez Corneille, mais ce qui lui prévalait d'avoir l'amitié de beaucoup de personnes de son entourage.
Alors ça ne l'empêchait pas d'ailleurs d'avoir une face sombre qu'on montre aussi dans la pièce, c'est-à-dire que la fin de sa vie, il avait réussi à se faire pas mal d'ennemis parce qu'il disait des choses que les gens n'avaient pas forcément envie d'entendre. Il ménageait pas forcément les puissants et donc il était un peu, d'ailleurs on le voit dans Les Misanthropes, qu'il y avait une espèce d'aigreur dans son propos par rapport à la vie de cour, à l'hypocrisie sociale, etc. Donc ça aussi c'est assez intéressant chez Molière, c'est-à-dire à la fois un auteur comique capable d'écrire des farces et en même temps une noirceur dans certaines de ses comédies qui est quand même assez profonde, dans Le Misanthrope particulièrement, mais même dans Don Juan ou Le Tartuffe, L'École des Femmes. Là. Et c'est ça qui en fait un auteur fabuleux, c'est-à-dire qu'il est à la fois capable de nous faire rire et de nous émouvoir et de nous faire sentir l'humain dans toutes ses dimensions.
Donc il a vraiment inventé le style comédie-ballet?
Oui, c'est vrai qu'il a travaillé avec Lully, ensuite avec Charpentier. C'est vrai que, mais c'était un peu un genre, on peut le dire à l'époque aussi, à la mode. Parce que le roi aimait la musique, les divertissements de cours. Donc voilà. Mais en tout cas, la grande comédie, au sens de par exemple, du Misanthrope ou Don Juan, c'est vraiment une création de Molière parce qu'il passe de la farce dans ses premières pièces a vraiment un type de pièce qui est à la frontière entre la comédie et la tragédie. Il n'a écrit aucune tragédie, mais on peut considérer par certains aspects que Le Misanthrope, c'est une sorte de tragédie, même Don Juan. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Ce qui fait qu'on peut dire que Molière est toujours actuel.
Oui, ce qui fait que nous avons envie de...
Même nos jeunes qui lisent plus beaucoup, je pense qu'ils n'ont aucun mal à lire et à comprendre justement l'humour... chez Molière, alors que d'autres auteurs classiques, entre guillemets, sont peut-être plus difficiles d'accès, je pense.
Oui, et c'est aussi peut-être lié au fait qu'il a écrit quand même plusieurs de ses pièces en prose. C'est vrai que la prose est quand même un accès plus facile que l'alexandrin, comme chez Racine ou Corneille, et qu'il a écrit des pièces dont l'intrigue est contemporaine, donc... alors que chez Corneille et Racine, il y a souvent des références à la Grèce antique, à la Rome antique, donc c'est plus compliqué d'accès. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins intéressant, mais c'est vrai que ça rend les choses un peu plus difficiles d'accès.
C'est vrai que pour nos amis professeurs qui écoutent beaucoup cette émission, on peut leur recommander en tout cas de promouvoir cet acteur le plus cool des classiques, parce que je pense que c'est vraiment que... il a vraiment des dialogues qui sont très faciles d'accès pour nos jeunes
oui, c'est vrai.
Et qui ne manquent pas d'humour et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors cette pièce donc sera en Andorre jeudi 27 à 21h à la Massana.
Oui.
Et quant au décor, qu'est-ce que ça, sans trop dévoiler, parce que là j'imagine que
oui,
vous avez
oui, alors
aussi...
en fait, le parti pris qui est le nôtre, c'est de justement, comme vous le disiez précédemment, c'est d'essayer de montrer le caractère universel de Molière, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire qui se passe en 1673, mais qui pourrait se passer aujourd'hui. Et donc on n'a pas cherché à écrire une scénographie de type réaliste. On a au contraire essayé vraiment de privilégier le caractère universel du propos à travers les costumes et les décors. Donc on ne va pas trop en dire pour laisser aux gens le plaisir de découvrir. Mais le but, c'est d'essayer de rendre le propos le plus intemporel possible. Parce que, en fait, ce qui est dit sur le théâtre, ce qui est dit sur les hommes et les femmes et leur rapport, pourrait être dit aujourd'hui et pourrait concerner des gens d'aujourd'hui. D'ailleurs, le théâtre concerne toutes les époques et c'est ça la force de Molière aussi, c'est de traverser le temps.
Alors, vous, petite troupe de théâtre, est-ce que vous avez du mal à vivre de votre art, de votre travail? On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes en France par rapport aux intermittents du spectacle,
oui,
etc.
Bah c'est sûr que c'est...
Est-ce que ça va mieux?
Ça ne va pas forcément mieux. C'est en voie de réforme et pas forcément dans le bon sens pour les intermittents parce que les gens, je pense, ne mesurent pas à quel point le statut d'intermittent n'est pas un statut de privilégié, contrairement à ce qu'on entend parfois, parce que... Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'un comédien, il a besoin de chercher du travail, il a besoin de temps de répétition qui n'est pas toujours rémunéré, il a besoin d'apprendre des textes, il a besoin d'une disponibilité pour pouvoir chercher de nouveaux projets sur lesquels travailler, donc il n'est pas du tout inactif, même quand il ne joue pas, quand il n'est pas sur le plateau. Et ça, je pense que les gens ne mesurent pas ça, cet aspect-là de la vie des comédiens. Nous, on se débrouille comme on peut. On n'est pas une troupe subventionnée. Et d'ailleurs, si les mécènes nous écoutent, on est preneurs.
Oui, on en a aussi.
Voilà. Et donc, on a bâti notre compagnie vraiment avec nos propres deniers à l'origine. Ça fait 8 ans qu'on existe et la compagnie s'est développée peu à peu, mais c'est très long et il faut quasiment 10 ans avant qu'une troupe puisse commencer à vivre correctement de ses revenus, si elle a la chance de créer des spectacles qui marchent. Et c'est vrai que notre spectacle sur Racine a beaucoup tourné en France et un petit peu à l'étranger, et c'est vrai que ça nous a aidé à faire vivre la troupe. Et on espère que pour Molière, ce sera la même chose.
Alors... Vu que Molière c'était un peu mis comme grand devoir à travers la comédie de corriger les hommes en les divertissant, est-ce que vous croyez qu'en allumant votre télévision ou en sortant dans la rue, est-ce que vous croyez qu'il y a moins de malades imaginaires, de Tartuffe, d'Arpagon ou de Misanthrope qu'au temps du Roi Soleil?
Ben, je pense que s'il n'y avait plus ni Tartuffe, ni tous ces gens-là, on n'aurait plus besoin de faire du théâtre. Si tout le monde était parfait, je pense que... Voilà, les choses seraient réglées. Non, en revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que le théâtre a encore de beaux siècles devant lui parce qu'il propose aux hommes des choses irremplaçables. C'est-à-dire que c'est pas à la télévision qu'on peut avoir les sentiments qu'on peut éprouver face à un spectacle de théâtre, parce qu'il y a vraiment le spectacle vivant, c'est n'a rien à craindre de l'image, de la télévision, du cinéma, de la vidéo, de tout ça. Et ce que viennent chercher les gens au théâtre et ce qu'ils trouvent, parfois, c'est une expérience unique qui n'existe pas ailleurs.
Est-ce que vous pensez à ce sujet que le fait que France 2 diffuse parfois des pièces en direct, ça peut permettre d'aller chercher un public qui, a priori, ne viendrait pas au théâtre par peur ou par sentiment ou de choses qui sont un peu trop élitistes? C'est une bonne proposition, vous pensez?
Personnellement, je pense que c'est une bonne proposition. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait au théâtre ce soir, la télévision, et bon, même si c'était parfois des pièces de boulevard, un peu d'accès, un peu facile, c'est quand même, ça permet de découvrir le théâtre, parce que beaucoup de gens ne vont jamais au théâtre.
En fait,
en dehors des capitales, des grandes villes, les gens ne connaissent pas le théâtre, ils vont avec l'école parfois, voire parfois des spectacles qui ne sont pas forcément de très bonne qualité toujours.
Ouais.
Et donc le fait de diffuser des pièces à grande échelle, c'est forcément bénéfique au théâtre. Après, c'est vrai que le théâtre filmé, c'est très difficile à filmer le théâtre, voilà. Parce qu'on perd énormément par une captation, donc ouais. On n'a pas du tout la même émotion face à un vrai spectacle vivant que devant un écran.
En tout cas, Serge Bouris, merci pour cet entretien. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs de venir vous voir ce jeudi 27 au Théâtre de Fontette, 28, pardon, me dit Jacques, enfin, ce jeudi 28 avril, excusez-nous, au Théâtre des Fontettes de la Massane. Serge Bouris, merci beaucoup et bonne continuation à bientôt.
Merci beaucoup.
Ah, nous finirons avec une musique Syracuse, c'était bien votre choix musical, Henri Salvador.
Oui, c'est une de mes chansons fétiches.
Bon, mais j'espère qu'elle vous portera bonheur. À bientôt, Serge Bouris.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Le magazine de la communauté française en Principauté d'Andorre.
Chers auditeurs, bonsoir. Comme l'effet comique des pièces de Molière suscite le rire des spectateurs, aujourd'hui, j'ai choisi des expressions avec le mot « rire ». Une plus ancienne et une autre plus contemporaine. Tout d'abord, un rire homérique. Cette formule voit son origine au IVe siècle avant Jésus-Christ. En effet, cette expression, qui date de l'époque d'Homère, qui, dans l'Iliade, décrit un repas où les dieux rient très fort à la vue d'Héphaïstos. Donc, un rire homérique désigne un rire aussi bruyant que celui des dieux de l'Olympe. Une autre expression beaucoup plus contemporaine, péter de rire. On ne peut dater l'origine de cette expression, mais on peut l'expliquer. En effet, lorsque le rire nous prend, le diaphragme se contracte plus ou moins violemment et peut déclencher des gènes dans les côtes. Physiquement, nous nous plions de rire pour atténuer cette gêne. Ainsi, d'apparence, le rieur est cassé en deux, donc pété de rire. Autrement dit, en train de mourir de rire. Bonne semaine à tous.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kéouan, et les grands oiseaux qui s'amusent.
Voilà, nous finissons avec Syracuse, Henri Salvador, le choix musical de notre invité. C'en est fini pour votre rendez-vous de l'Alliance cette semaine. Je vous rappelle que cette émission, comme toutes les précédentes d'ailleurs, sont podcastables et donc disponibles en balado-diffusion sur le site internet andoradiffusion.ad à la rubrique programme puis les rendez-vous de l'Alliance. Merci à Teddy et à la semaine prochaine.
Rêver des amants de Vérone. Au sommet du Fujiyama.